Le journal Jean-Claude Toumbaka-Manga.
Bonjour, le port de Matadi reprend ses activités. Cela fait suite à la suspension depuis hier de la grève des agents de l'Office national de transport ONATRA. Les différents syndicats de cet office affirment avoir reçu des garanties du gouvernement sur l'application du décret présidentiel à la base de cette grève. Nous aurons Georges Kamoudjova en direct du port de Matadi. La localité de Kinkonja au nord du Katanga en proie à l'épidémie du choléra. 12 morts et 217 cas de personnes malades. C'est le premier bilan de cette épidémie. Nous aurons en ligne de Lubumbashi notre correspondant Paul Mounanga. Le gouvernement congolais doit apporter quelques correctifs dans le fonctionnement de la commission électorale indépendante pour les prochaines élections. Déclaration hier du chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Le général Morillon suggère la décentralisation des responsabilités. C'est pour gagner plus de temps. Vous entendrez dans cette édition le général Morillon. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous ouvrons ce journal par le Bas-Congo. Reprise des activités au port de Matadi. C'est la conséquence de la suspension depuis hier de la grève des agents de l'Office national de transport, l'ONATRA. Les différents syndicats de cet office affirment avoir reçu des garanties du gouvernement sur l'application du décret présidentiel à la base de cette grève. Le décret signé par Joseph Kabila sur le guichet unique confie la gestion de ce guichet à l'Office de douane et accises, l'OFIDA. C'était sur conseil de la Banque mondiale. Même le port va ouvrir, même les jours fériés pour récupérer le manque à gagner de 2 semaines de grève. Notre reporter Georges Kamoudjova est sur place au port de Matadi. Il nous décrit l'ambiance dans le port.
Personnel et voitures sont en mouvement, les bureaux sont ouverts, les sirènes de train se font entendre de nouveau, l'atmosphère est redevenue normale. Plus de 3000 tonnes de marchandises ont été déchargées jusque ce matin. Sur une centaine de véhicules qui attendaient au port, près de 35 sont déjà libérés. La reprise des activités au port et à la gare de Matadi recrée un sourire chez le petit commerçant de la ville. J'espère que mes produits seront épuisés avant 14 heures, nous déclarait un vendeur de cartes prépayées à l'extérieur du port. Le manque à gagner durant une semaine aura été énorme, surtout pour les services portuaires. En une semaine normale, par exemple, l'OFIDA encaisse plus de 2 millions de dollars. Pour récupérer la situation, lundi et mardi ne seront pas fériés au guichet unique de Matadi. Les services portuaires, dont l'ONATRA et l'OFIDA, se conviennent d'un service minimum pendant ces 2 jours. Depuis le port de Matadi, Georges Kamoudjova, Radio Okapi.
À Kinshasa, pendant ce temps, il n'y a plus de doute sur la suspension de la grève à l'ONATRA. Confirmation du président de la délégation syndicale de l'ONATRA. Étienne Tadila annonce la mise sur pied d'une commission technique chargée d'étudier la question pendant 15 jours. Le président de la délégation syndicale de l'ONATRA, Étienne Tadila, joint par Alain Irung.
Oui, je confirme la suspension de l'arrêt de travail depuis hier à 14h. Nous avons suspendu parce que après que l'ONATRA ait exposé à travers l'intersyndicale à laquelle nous appartenons, après que l'ONATRA ait exposé ses prétentions, il a été convenu avec les experts des ministères concernés, c'est-à-dire les ministères du portefeuille, des transports et communications, des finances et du commerce extérieur, que nous puissions mettre en place une commission technique tripartite qui va devoir approfondir les différentes préoccupations de l'ONATRA afin de déboucher sur une décision qui va préserver les intérêts des uns et des autres.
Direction Katanga, où au moins 15 personnes sont déjà décédées de suite du choléra dans la localité de Kinkonja, territoire de Bukama. Cette épidémie qui s'est déclarée en début de semaine s'étend à présent jusque dans le territoire de Malembankoulou. D'après le médecin chef de zone de santé de Kamina, cette maladie est propagée par l'eau. La population de cette contrée consomme l'eau du fleuve et des puits. Nous avons en Lubumbashi, nous devrions avoir un reportage de Paulin Mounanga, nous y reviendrons. Cap sur le Kasaï oriental avec Mbujimaï. Les autorités sanitaires de la province du Kasaï oriental sont inquiètes de la résurgence de l'épidémie de la rougeole dans la ville de Mbujimaï. Au cours d'une réunion tenue vendredi soir à l'inspection médicale, les responsables médicaux ont pris des mesures en vue de préparer la riposte pour stopper la propagation de cette épidémie. Des détails avec Julien Yamouni.
Environ 370 enfants sont atteints de la rougeole. Ces enfants, dont l'âge varie entre 6 mois et 2 ans et demi, sont concentrés dans la commune de Bipemba, à l'ouest de la ville de Mbujimayi. Docteur Mukena, médecin secrétaire provincial intérimaire, s'est réservé pour l'instant d'annoncer le nombre de décès. Selon lui, ces chiffres pourront être connus de ce soir. Ce que l'on sait en revanche, c'est une série de mesures annoncées, notamment le renforcement de la surveillance épidémiologique, création d'une ceinture autour de la ville, une disposition qui sera confrontée au mouvement de la population. L'infection envisage aussi la planification de la riposte, mais aussi la sensibilisation de la population, y compris la prise en charge des malades. Dr Mukena a déclaré que la campagne de masse initialement prévue au troisième trimestre de cette année pourra être ramenée au premier trimestre. Encore faut-il que Kinshasa donne son accord. Le bureau de l'OMS Kasaï Oriental et d'autres partenaires devront faire le plaidoyer pour trouver des moyens financiers. Moyens financiers qui font justement défaut pour l'instant. Julien Nyamweni, Moana Changou, Mbujimayi, Radio Okapi.
Retour sur le Katanga avec cette épidémie de choléra. Au moins 15 personnes sont déjà décédées des suites du choléra dans la localité de Kinkonja, territoire de Bukama. Cette épidémie qui s'est déclarée en début de semaine s'étend à présent jusque dans le territoire de Malembankoulou. D'après le médecin chef de zone de santé de Kamina, cette maladie est propagée par l'eau. La population de cette contrée consomme l'eau du fleuve et des puits. Pour les Moulanga.
234 cas de choléra sont enregistrés dans la localité de Kinkonja, dont 15 décès. Les chefferies de Mangi, Kadia et Kitembo sont les plus touchées dans cette zone. L'épidémie touche à présent la localité de Luamba, dans les territoires voisins de Malembankoulou. 6 cas, dont 3 décès, ont déjà été enregistrés. Selon le médecin directeur de l'hôpital de Luamba, sa formation médicale n'a aucun moyen de prise en charge des malades et aucune ONG internationale n'intervient dans ce secteur. Les premiers cas de choléra dans les districts de Olomami ont été signalés depuis le 18 décembre dans les territoires de Kabalo qui se trouvent aussi le long du fleuve Congo. À Kabalo, le choléra est maîtrisé. À Kinkonja, l'ONG Médecins Sans Frontières France est à pied d'œuvre pour combattre cette épidémie. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Il est 12h08 à Kinshasa, une heure de plus à Kindu, nous sommes dans le Maniema. À Kindu, justement, l'Association africaine pour la défense des droits de l'homme, AZADO, déplore les conditions de détention à la prison centrale de Kindu. Après une visite effectuée dans ce lieu de détention, l'AZADO Maniema qualifie ces conditions d'inhumaines de la part des militaires condamnés qui sont eux aussi des pensionnaires de la même prison. Ces militaires rançonnent et torturent les autres pensionnaires de cette prison. Kimpili Kangamina, président de l'AZADO Maniema, nous décrit cette situation au micro de Mathieu Ilunga Chambuywa Monachebe.
J'ai vécu certaines situations trop scandaleuses, notamment avant d'entrer dans la prison, les militaires et policiers basés juste à la porte réclament 100 francs, 200 francs. C'est-à-dire que les gens qui viennent avec de la nourriture, avant de donner ça aux détenus, aux condamnés, il faut donner obligatoirement 100 ou 200 francs. Et puis, pas seulement ça, il y a aussi à l'intérieur même de la prison, les civils jetés dans la prison sont soumis au traitement inhumain de la part des militaires condamnés. Moi-même, comme président et à l'issue de ma tournée, j'ai constater une situation. La victime Ngumbi Bousse de la rive droite de la commune d'Alongoli, qui avait été arrêtée, a été obligée de payer 10 dollars d'abord, desquels il a payé que 1000 francs. Mais je l'ai trouvé en train d'être torturé et tabassé par les militaires, jusqu'à me dire qu'il ne sera pas condamné doublement. Mais il s'est fait malheureusement que tout celui qui est jeté en prison, même dans le cadre des enquêtes, est soumis à des traitements inhumains et dégradants ainsi de suite. Alors, ça ne fait pas plaisir pour la population.
Vous écoutez Radio Kapi, nous poursuivons ce journal par la ville de Goma, dans le Nord Kivu. Un capitaine de la 5e brigade intégrée a été tué vendredi soir par des hommes armés non identifiés. Cette attaque a eu lieu sur le tronçon Kiwanja-Ishasha, à plus de 80 km au nord de Goma, en territoire de Rutshuru. Selon le colonel Kasikila, commandant de cette brigade basée à Rutshuru, ce capitaine était en patrouille avec ses éléments lorsqu'il a été abattu. À Kinshasa, la mission d'observation électorale de l'Union européenne formule un certain nombre de recommandations à l'endroit des Congolais afin d'éviter les écueils relevés lors du référendum. Bien que globalement satisfait du déroulement du premier round du processus électoral en RDC lors d'une conférence de presse tenue hier, le chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, le général Philippe Morion, a notamment évoqué la décentralisation des responsabilités. Le chef de cette mission affirme que c'est pour gagner du temps au regard du retard pris dans le dépouillement et le comptage des voix après le référendum. Le général Philippe Morion au micro de Guy Maté.
Une des raisons qui a obligé à retarder la publication des résultats, c'est qu'il fallait avoir recours à la Cour suprême de justice pour valider ces résultats. Nous pensons que pour les prochaines échéances, il faut décentraliser les responsabilités, aussi bien pour la désignation des candidats qui se présentent. Si vous attendez que les décisions soient prises au niveau central, ici à Kinshasa, vous allez prendre des mois avant même de pouvoir établir la liste des candidats. En aval, pareil. Si vous attendez de Kinshasa qu'il règle tous les problèmes au niveau de chacune des circonscriptions, deux mois après le premier tour, vous n'aurez toujours pas. C'est un avis technique que nous donnons là. Nous pensons que déconcentrer les responsabilités, faire appel aux cours d'appel locales, elles existent, mais aux chefs coutumiers aussi, dont on connaît bien l'importance du rôle dans votre pays, pour déconcentrer et donc accélérer les résultats. Et c'est l'expérience du référendum qui nous a convaincus de cette nécessité.
Vous écoutez là le général Philippe Morion, chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Rendons-nous à Kisangani. Le bazar intercommunautaire de l'Ituri se tiendra le mois prochain à Bunia. C'est le gouverneur de la province orientale, Jean-Pierre Lola Kisanga, qui l'a annoncé hier vendredi à Kisangani, chef-lieu de la province orientale. C'était en marge des travaux sur la prévention et la résolution pacifique des conflits au sein des communautés de base. Ces travaux étaient organisés par le groupe Lotus, une ONG des droits de l'homme basée à Kisangani. On écoute le gouverneur Jean-Pierre Lola Kisanga au micro de José Deschartemenga.
Le gouvernement, dans son programme, a ciblé la province orientale dans sa partie essentiellement nord-est, l'Ituri, où des conflits interethniques sont monnaie courante, afin d'organiser la deuxième phase du Barça intercommunautaire. Avec le gouvernement, à travers sa commission gouvernementale sociale et culturelle, nous allons nous investir pour l'organisation du Barça de l'Ituri. C'est l'autorité provinciale qui sera la cheville ouvrière de l'organisation d'ici le mois prochain de ce bazar dans l'Ituri. En même temps, nous allons étendre cette expérience réussie dans le Sud Kivu, non seulement à l'Ituri, mais dans le reste de la province, dont la ville de Kisangani.
Quittons Kisangani pour Mbandaka, où règne une vive tension sociale à la régie des eaux de cette ville. Le personnel de la régie des eaux Mbandaka totalise 44 mois d'arriérés de salaire. Ces agents sont à bout de souffle et menacent d'aller en grève à la fin de ce mois. La direction provinciale ne peut apurer ces arriérés faute de recettes locales. Du coup, les employés sollicitent le concours de la délégation générale à Kinshasa pour solution avant de mettre leurs menaces à exécution et priver tout le chef-lieu de l'Équateur d'eau potable. Éclairage avec Paul Richard Malengela.
Les cadres et agents de la régie des Mbandaka, non payés depuis 44 mois, se disent incapables de se prendre en charge eux-mêmes et leurs familles. La plupart d'entre eux ne peuvent plus envoyer les enfants à l'école. D'autres sont sous-logés, d'autres encore locataires, connaissent des démêlés à chaque fin du mois avec leurs bailleurs. Trop c'est trop, ajoutent-ils. Face à cet état des choses, ces employés entendaient arrêter le travail au 15 janvier 2006. Une menace qui risque de priver indéfiniment plusieurs Mbandaka d'eau potable. Selon le directeur provincial intérimaire, les arriérés de salaire pour ces 64 agents se chiffrent à plus de 150 millions de francs congolais. Il les appelle à la patience en attendant de recouvrer ces fonds auprès des abonnés. Des abonnés insolvables qui cumulent à ce jour des factures impayées de l'ordre de 105 millions de francs congolais. Suite à une médiation jouée par l'inspection provinciale du travail, ces employés disent repousser leur ultimatum de grève au 30 janvier prochain. Dans un protocole d'accord adressé à la hiérarchie, ils attendent que la délégation générale à Kinshasa prenne en charge leur salaire ainsi que leurs avantages sociaux. Mbandaka pour le Richard Malengela, Radio Okapi.
Terminons ce journal sur l'autre rive du fleuve Congo. Au Congo-Brazzaville, un ressortissant de la RDC habitant Pointe-Noire a porté plainte contre un officier de l'armée du Congo-Brazzaville pour menaces, violences et voies de fait. Cet officier aurait enlevé et fait battre le menuisier congolais de la RDC qui a eu la vie sauve grâce à l'intervention de la police de Pointe-Noire, comme nous l'explique Arsène Séverin dans ce reportage.
Pambo Mabiala a été enlevé un soir de décembre à son atelier de menuiserie au quartier Long à Pointe-Noire par trois un capitaine de l'armée. Enfui dans le coffre d'une voiture, l'homme a été battu au domicile de l'officier. Ce dernier a même servi de son pistolet pour achever victimes. C'est grâce à l'intervention de la police qui était espoir que Pambou Madiala aura la vie sauve. Le tribunal de grande instance de Pointe-Noire vient d'être saisi de l'affaire et accepte de lancer les poursuites contre les présumés coupables. Mais plusieurs observateurs donnent peu de chance à cette plainte car il faut d'abord lever l'immunité de l'officier. C'est pourquoi le président de la communauté des ressortissants de la RDC, Mbemba Kouloir-Ndélé, qui s'est tellement rendu à Pointe-Noire, a informé toutes les autorités ministères de cette ville. Personne ne verra un Brazzaville. Radio Capi.
C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles sur Radio Capi.